ainsi que Radio Campus 88.3 FM.
Il faut mettre de la souplesse dans tout cela.
Monsieur, allez jusqu'au bout de votre autorité.
www.orléans.radiocampus.org.
Un autre outil pour séduire.
Depuis quand connaissez-vous ce site?
Oh, il n'y a pas bien longtemps, mais il m'a tout de suite intrigué.
C'est peut-être qu'un simple canular.
www.orléans.radiocampus.org.
Stream, podcast, news, mix, interview, playlist.
C'est ce dont j'ai toujours rêvé depuis toujours.
En 1965, la guerre du Vietnam bat son plein. L'Amérique a envoyé ses GIs au sud.
Contestation rime avec répression. Contestation, répression.
Le cortège est protégé par 5 véhicules blindés et un hélicoptère.
Ce sont aussi les premiers bombardements de l'US Air Force au nord. 65, c'est aussi la crise de Saint-Domingue.
Cette mesure provoque une vague d'émeutes d'une ampleur exceptionnelle. 24 morts en 3 jours et des troubles. Échec d'un coup d'État, toujours déclenché au palais de la
Sécurité. De plus en plus, l'Amérique s'érige en gendarme du monde. Et Ben Barka ne cesse de dénoncer partout où il se rend l'impérialisme de l'Amérique et de ses alliés.
Il a provoqué une rébellion militaire qui a abouti à une loi d'Alfonsine, selon laquelle les militaires d'un rang inférieur à celui de colonel n'étaient plus passibles de poursuites.
Ouais, bah, j'ai connu un mec de droite une fois, il avait 10 fois plus de clash.
Washington est en feu. Les Noirs descendent dans la rue, plus de 500 magasins ravagés, des quartiers entiers incendiés, bilan, 7 morts, 1200 blessés.
Soyez les bienvenus sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours, c'est à bâton rompu qui démarre. Magazine d'infos tous les mardis entre 19 et 20 heures. Ce mardi, deux jours après le scrutin, nous parlons des législatives anticipées dont le deuxième tour a eu lieu dimanche avec des résultats, des résultats caramba. Le coup passe à si près. Elle n'est pas de moins, vraiment, réellement. Le Rassemblement national, qu'une très grande majorité de sondeurs donnait vainqueur de cette élection, certains disaient même qu'il pourrait avoir la majorité absolue, a été battu. Le parti d'extrême droite arrive troisième avec 143 députés, devancé par Ensemble, coalition présidentielle, 163 sièges. Le vainqueur du scrutin est le NPF, le nouveau Front populaire, 182 députés. La coalition des principaux partis politiques français de gauche, lancé il y a juste quelques semaines après une campagne puissante contre le RN, a donc gagné ce scrutin. Nous analysons cette nouvelle donne politique en France ce soir avec le journaliste Mourad Guichard qui d'habitude est au téléphone. En début d'émission avec nous aujourd'hui en studio, bonsoir Mourad.
Oui, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à toi Hassan.
Plaisir de t'avoir ici. Nous allons également écouter Karine Fischer. Karine Fischer est conseillère régionale LFI, région centre Val-de-Loire. Elle sera également dans l'émission pour nous donner son analyse des résultats de ce scrutin, nous parler du nouveau député Emmanuel Duplessis, de gauche, élu sous la bannière Nouveau Front Populaire dans la deuxième circonscription du Loiret. Elle nous parlera également de la 6e République, un projet proposé par son parti dont on reparle depuis la dernière dissolution. Voilà pour le sommaire d'Abattoir Rompu de ce 9 juillet 2024. Jour historique de départ d'une étape du Tour de France à Orléans.
À bâton rompu avec Hassan Kerim.
Comment tu dis ? J'ai pas entendu.
À bâton rompu avec Hassan Kerim.
Alors, on écoute ça tout de suite. C'était le départ. Monsieur Jojo est avec nous également. Bonsoir Jojo, je t'ai même pas.
Alors c'est Polo. Jojo, c'est son grand frère.
Ah mais oui. Polo G. Bonjour monsieur Polo.
Bonjour.
Bah, tu étais sur le Tour de France ?
Oui.
Écoute.
Allez la caravane, c'est pour toi, c'est comme ça. Ça se sent, non ?
Bah ouais, ça sent.
Oui. Ouais, ça se sent.
Ah, c'était sur le départ du Tour de France. Tu l'as pas vu, ça, toi ?
Non, je l'ai pas vu. J'étais à côté de chez moi, à Olivet.
Tu les as vus passer à Olivet, oui. Plutôt, oui. Ah, donc, t'étais pas sur le départ. Là, ce sont des images que j'ai chez les confrères de Pour Info à Orléans, direct de la caravane du Tour. C'était à 13h. Et alors, tu as vu des coureurs que tu connais ou pas ?
Oui, j'ai reconnu quelques coureurs.
C'est vrai ?
Oui.
Tu suis ça, le cyclisme, alors ?
Parfois, quand je le vois passer sur les chaînes de sport, ouais. Ou sur France 3, je regarde vite fait, oui.
Ah ouais, non, mais c'est bien parce que moi, je suis un foutu de te dire qui est le numéro 1 en France en ce moment. Je sais qu'on a Roland, je crois, qui est orléanais, je crois, un coureur, mais je ne les connais pas.
Ok.
Mais ils étaient quoi ? Ils étaient en peloton quand ils sont passés à Olivet ou...
Bah, ils étaient tous regroupés comme ouais. Ça avec les voitures autour. Ouais. Du coup, c'est passé vite, mais ouais.
Et est-ce que tu as eu des cadeaux ? Parce qu'il y a une caravane qui passe avant avec...
Oui, à 11h, il y a plein de sponsors avec leur caravane personnalisée qui passe et qui jette des petits trucs comme ça. J'ai eu, par exemple, un torchon, un décapsuleur.
Oh, cool.
De la lessive, carrément.
C'est vrai ?
Oui.
Et pas de béret, pas de bonnet ?
Non, malheureusement.
Bon, c'est parce que ça, c'est une... Il y a plein de gens qui... Je peux pas dire de marque ? Si, Cochonou. J'ai un copain qui voudrait absolument avoir ça, mais je crois qu'il n'était pas à Orléans aujourd'hui. Donc voilà, et du coup tu vas suivre jusqu'au bout le Tour de France ?
Ah oui, quand je verrai passer ça, je m'arrêterai sur cette chaîne, oui.
Ouais, très très bien. Ben en tout cas, mais bravo, merci d'être là avec nous, et puis tu nous suis jusqu'à la fin ?
Oui.
Bien sûr.
À bâton rompu, sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours, tous les mardis de 19h à 20h.
Mourad, ces résultats étonnants, dimanche soir, on ne s'y attendait pas tellement. Tous les sondeurs pratiquement nous disaient que, ou alors le Rassemblement National aurait une majorité absolue ou pas, mais en tout cas, il serait en tête, et finalement, non.
C'était totalement, selon moi, totalement irresponsable, les commentaires qui ont fleuri, notamment avant le premier tour, je pense. Notamment à Nathalie Saint-Cricq. Je revois, alors c'était je crois dans Télématin, je la revois annoncer qu'il y aurait potentiellement 305 députés RN. Donc c'est totalement délirant. Alors j'ai alerté à plusieurs reprises, par voie télévisuelle, par écrit, ou notamment sur les spaces via Twitter, mais que c'est totalement délirant, que c'est totalement irresponsable d'annoncer avant le premier tour notamment, mais même avant le second tour, c'était pareil en fait. C'est-à-dire que les élections législatives sont particulières. C'est-à-dire que ça dépend de chaque circonscription. D'une part, c'est ce qu'on se disait la semaine dernière. Mais d'autre part, ça dépend évidemment des désistements. Ça dépend... Donc il y a eu, je crois, pour la gauche, il y a eu, si mes souvenirs sont bons, 110... Je crois que c'est 110. Ouais. 110 désistements. Donc c'est... Voilà. Alors il y a des gros débiles... d'analystes de plateau télé qui ont expliqué qu'il y avait finalement très peu sur le lot, très peu d'élus de la gauche réunis, mais évidemment, puisqu'il y a eu 110 sur 577, c'est énorme. Absolument. Il y a eu 110 désistements. Donc, de gens qui auraient pu. Alors, je rappelle ce que c'est un désistement, c'est quelqu'un ou quelqu'une qui peut se maintenir au second tour, donc qui peut participer soit à une triangulaire, soit à une quadrangulaire, ce qui est plus rare, mais bon, à minima à une triangulaire, mais qui décide de manière républicaine et raisonnée. Et raisonnable de se retirer pour ne pas donner une chance au Rassemblement national. Et donc ça veut dire, accessoirement, que des gens de LR, donc de chez Wauquiez, ou de Renaissance, se sont fait élire grâce aux voix de la gauche qui s'est, dont le candidat s'est retiré pour éviter le pire. Absolument. Donc, à la fois, je trouve que le score de la gauche est important, c'est le premier parti d'opposition à la Macronie, et d'autre part, il aurait pu être encore plus important, effectivement, s'il y avait eu la prise de risque de maintenir des candidats. Et effectivement, et je renvoie ce fameux électeur de la gauche place Stalingrad le soir là. Je vous invite à aller voir la vidéo, on la trouve assez facilement sur les réseaux sociaux, qui explose de joie, pleure, parce que effectivement il y a eu une pression énorme mise sur la tête des militants et des sympathisants de la gauche, pour qui on avait asséné à coups de Rutel Krief, à coups de Bloc Côté, à coups de Pascal Pro, à coups de tous ces parasites d'analystes à la con. Pardon, je le dis vraiment, je suis désolé, mais ça me rend en colère. À tous ces parasites qui avaient pronostiqué la victoire du RN et qui se sont tous littéralement plantés. Alors, on a jusqu'à, à partir de 19h, jusqu'à 19h45, je dirais, on a reçu, je parle nous, les journalistes, on a reçu, vous savez, les sondages sortis des urnes. Ils étaient totalement contradictoires. C'est-à-dire que c'était impossible de savoir lequel avait raison. Les uns disaient que le RN allait gagner, les autres disaient que la gauche allait gagner. Donc même les sondages sortis d'urne, qui généralement, très honnêtement, généralement, je ne suis pas très Madame Soleil, mais très, généralement, ils sont assez fiables. Là, c'était un plantage complet. Donc voilà, l'histoire a donné raison à la gauche. La page la plus dure, la plus compliquée reste à écrire, et on a, je crois, d'après les informations que j'ai, jusqu'à on parlait de quelques heures, mais je pense pas, on est mardi soir, je pense que ce sera d'ici au minimum jeudi que la gauche pourra proposer un gouvernement, un premier ministre, sachant que le programme est déjà lui écrit. Le ou la Premier ministre, très honnêtement, j'en ai rien, mais strictement rien à cirer. Le principal étant que le programme soit appliqué. Mais derrière, n'ayant pas de majorité à l'Assemblée nationale, ça va être très compliqué pour la gauche de pouvoir faire passer des lois, notamment l'abrogation de la loi retraite.
On va y revenir, mais restons à cette soirée de dimanche que tu as suivi sur plusieurs télévisions, je te connais, et avec cette frustration des éditocrates qui s'est montrée en plateau. Celui qui revient le plus souvent, c'est Franz-Olivier Gisbert face à Clémence Guettet, député déjà réélu au premier tour de LFI. Écoutez
du ça. Miel, du miel.
Ah oui, écoutez ça.
Des gens, là, je ne sais pas si Raphaël Arnaud sera élu, comme on le dit, trois fois fichiers, oui. Etc. Oui.
Clémence Guettet,
bon, personnage quand même juste dingue, ce qui montre qu'il n'y a pas eu de campagne. Parce que pour que les Avignonnais que je connais votent pour quelqu'un comme ça, on voit que vraiment, bon, c'est un peu n'importe quoi. Donc il faudra qu'ils règlent les problèmes à l'intérieur. Juste, je termine, puis après, vous écouterez.
Il est député
écouterez,
de la Nation, donc respecter la Nation. Un minimum.
Oui, mais enfin, on peut aussi...
Bah oui, bah si,
la parole reste libre encore, on peut parler. Je suis désolé.
Bah oui, mais vous n'avez pas le droit de le jeter comme ça, en pâture.
Excusez-moi, il y a encore la liberté d'expression dans ce pays, s'il vous plaît.
Mais les gens ont voté pour lui, monsieur Gisbert, donc je suis désolée, vous avez le droit de le respecter également.
S'il vous plaît, tout va bien, on a la parole.
Ça commence déjà, il ne faut pas dire ça.
Vous insultez un député de la Nation.
Mais vous insultez, qu'est-ce que vous faites?
Vous insultez
le président de la République, vous insultez le...
Enfin, faut arrêter ça. Ne vous énervez pas.
François-Olivier Gisbert, pour conclure, Franz.
Non, non, mais pour conclure, il a la... Des gens, là, je ne sais pas si Raphaël Arnaud sera élu, comme on le dit.
Non, ça recommence, mais... Papa, c'est quoi le seum? C'est Franz-Olivier Gisbert. Mais alors, c'est incroyable. Vous entendez comment il engueule une députée, en plus, sur un... un élu de et bah oui, parce qu'il était, il est élu, le monsieur dont il parle, député. Et on va continuer avec sur CNews, ta chaîne préférée, avec Mathieu Bock-Côté. On en parle beaucoup dans cette émission. Bah, lui aussi, il allait du chien.
Faut pas vous énerver, monsieur Bock-Côté, comme ça.
Une balle dans la tête, c'est grave, non?
Faut pas vous énerver.
Une balle dans la tête, c'est grave ou non?
Le programme du Front Populaire.
Une balle dans la tête, c'est grave ou non? Une balle dans la tête, c'est grave ou non?
Mais bien sûr que c'est grave.
Donc vous dénoncez.
Oui, mais c'est pas la peine de crier.
Je crie pas, vous avez été tellement silencieux devant cette idée d'une balle dans la tête, je voulais vous la rappeler.
D'accord, monsieur Bock-Côté. On va mettre deux têtes dans la balle de personne. On va mettre deux balles dans la tête.
Monsieur Arnaud l'a proposé.
Le Front Populaire est arrivé en tête du second tour. Et puis, j'espère qu'il pourra appliquer son programme.
Le député Arnaud a proposé de mettre une balle dans la tête de quelqu'un.
Vraiment,
vous le soutenez encore
Mathieu
maintenant, bravo, vous êtes solidaire.
Mathieu Bock-Côté, je précise simplement qu'il y a une enquête qui est une plainte.
Citation de Raphaël Arnaud, c'est la Lescordique, vous voulez mettre une balle dans la tête.
Monsieur Lacquéau, en plus la mission est quasiment terminée. S'il vous plaît, il y a une plainte qui a été déposée, il y aura une enquête qui est en cours, et il faudra déterminer si oui ou non ces propos ont été tenus. Si oui,
le système est correct, moi, c'est tout.
J'ai bien compris, Mathieu Bock-Côté, mais il y a une plainte qui est en cours. Donc on verra ce que va dire la justice. C'est à la justice de déterminer. Et puis ce sera intéressant de voir si oui ou non, un jour, il est condamné pour ses faits. Et si oui ou non, il remettra peut-être son mandat.
Le féliciter, c'est Laurent, sa solidarité politique.
Et de quelle solidarité vous parlez? Ça va aller, les calomnies, là?
Mais monsieur dame, il est quasiment...
Ben voilà. Il parlait de Raphaël Arnaud, je répète, qui a été élu député du côté d'Avignon, qui dit-il, est fiché S, et qui, de ce fait, serait indigne à être député. Je vous invite à aller lire. Il y a des gens qui ont débunké ça. Tu parlais, Mourad, de Pascal Praud. À lui, c'était lundi matin dans sa fameuse émission. L'antisémitisme revient. Écoutez ça.
Quel Premier ministre? Mais je voulais vous montrer les tweets de notre ami Gilles-William Golnadel. Parce que je pense aujourd'hui aux Juifs français qui doivent être extrêmement inquiets de ce qui se passe.
Oui,
parce qu'effectivement, ce qu'on a vu hier soir, Place de la République, ce qu'on a vu aussi dans ces élections, c'est l'antisémitisme validé par les urnes. C'est-à-dire des prises de position antisémites n'ont pas empêché un candidat d'être élu. Je peux le dire comme ça.
Oui.
Je peux le dire comme ça. Donc écoutez, regardez plutôt les tweets de notre ami Gilles-William Golnadel, que je salue, qui est pas en France, comme vous le savez en ce moment. Recette d'une élection écœurante à vomir, un soupçon de magouille entre Macronie et gauche, une pensée d'antisémitisme qui ne dégoûte personne. Cette phrase est forte, hein. Une pensée d'antisémitisme qui ne dégoûte personne. Alors, elle dégoûte beaucoup de gens, mais manifestement pas tous les électeurs.
Pas au point de les empêcher.
Exactement. Des graines de propagande de civisme public, une bonne dose de vote islamiste qui ne sont qu'un avant-goût de ce qui nous attend, dit-il. Et ça aussi, c'est une question identitaire qui est très forte et on peut le rejoindre. Mélenchon se pavane, poursuit-il. Le parti antisémite n'a pas été vaincu. Félicitations pour leur petite combine à messieurs Macron, Glucksmann, Attal et Hollande. Sans oublier le CRIF, ils seront responsables du vent mauvais qui vient. Ils ont tout mon mépris.
Et ben alors,
écoutez cette analyse, ayant même un troisième symbole de la famille, les accouplements politiques obscènes et les manipulations médiatiques, notamment de sévices publics, viennent d'accoucher d'un monstre. Arnaud, membre du parti antisémite, multicondamné, apologiste des fichier S entre à l'Assemblée.
Mais alors vous
Eh ben oui, Raphaël Arnaud, ça va être leur bonhomme. Alors Pascal Praud, il lisait un tweet de Gilles-William Golnadel qui est sur son plateau régulièrement, qui est avocat, paraît-il, et qui a envoyé ça depuis Israël apparemment, ce tweet, où, amis auditeurs et auditrices, si vous avez voté pour le nouveau Front Populaire, sachez-le, vous êtes antisémite. Mourad.
Oui, absolument. Alors, je confirme que Golnadel est parti soutenir le régime génocidaire du Likoud, de Netanyahou. Donc, il est parti pour 2 mois. Ça nous fait un peu de vacances. Là, on est. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le film Délivrance. Où il y a une fameuse scène où on voit ce qu'on appelle les white trash dans les montagnes qui se reproduisent entre eux. On est un peu dans ce cycle là, c'est-à-dire que Pro lisant un tweet de Golnadel qui n'a aucune qualification pour parler de quoi que ce soit en termes de géopolitique va le lire à l'antenne comme si c'était une vérité vraie. Alors voilà, c'est des gens qui se reproduisent entre eux, c'est des consanguins et donc avec les tares qu'on devine in fine. C'est complètement ridicule. Ça a été débunké à plusieurs reprises. Ça revient régulièrement sur le tapis. C'est-à-dire que soit LFI a en son sein, et je ne défends pas LFI, je ne fais pas partie de LFI, hein, je le reprécise, soit LFI a en son sein des antisémites, dans ce cas-là, ils doivent être condamnés fermement. Je serai le premier à appuyer une décision de justice, à relayer une décision de justice qui serait dans ce sens-là, soit ça n'est pas le cas. Et ça n'est pas le cas. Donc ce sont uniquement des propos diffamatoires qui n'ont absolument aucun lien avec la réalité, d'une part. D'autre part, c'est Yann Brossa, le sénateur communiste de Paris, ancien adjoint au maire de Paris, au logement, qui a fait un travail absolument extraordinaire, notamment sur les Airbnb, et qui, lui, a pointé 45, très précisément, 45 candidats du Rassemblement national qui, eux, ont été reconnus coupables de propos, de faits, d'agissements, antisémites, soit racistes. Donc c'est un fait. Et effectivement, comme le pointait Yann Brossa, sur les chaînes du type CNews, il n'y a jamais d'interrogation. Lorsque Bardella vient, comme il vient à la maison, hein, avec son rond de serviette, sur CNews, jamais il n'est interrogé sur ces questions-là. Alors que tous les candidats et tous les acteurs de la gauche sont, eux, interrogés systématiquement sur cette question d'antisémitisme fantasmé. Donc voilà, il y a un décalage total et absolu. Ils ont, alors, à leur décharge, ils ont la rage. Oui, ils pensaient que leurs amis, ils étaient complètement Bardella compatibles. Ils étaient prêts. Ils avaient tout préparé. Enfin, ils avaient le tapis rouge. Ils avaient le rond de serviette et ainsi de suite. Et manque de bol, ben c'est pas le RN qui est passé. C'est la gauche, avec toutes les difficultés qu'on va avoir, je le redis. Mais c'est la gauche qui est passée. Et donc, je leur en veux pas tant que ça. Je pense notamment à Franz-Olivier Gisberg, dont on a écouté le son tout à l'heure, qui est fou de rage. Parce que cette espèce d'élitocrate bourgeois qui n'a jamais écrit, enfin au moins depuis 30 ans, 40 ans, n'a jamais écrit le moindre papier, n'a jamais fait le moindre reportage, n'a jamais mené la moindre enquête, n'a jamais fait la moindre révélation, et qui ne vit avec son petit bout de plastique de carte de presse que par l'entre-soi parisianiste, et Marseillais accessoirement, a décidé de péter les plombs parce que oui, ben oui, c'est son camp qui a perdu. C'est son camp qui a perdu, c'est le camp de la bourgeoisie, c'est le camp du patronat qui a perdu. Mais je le redis, le plus dur va rester à faire. On attend vraiment la fin de la semaine pour y voir plus clair. J'ai juste une crainte, c'est j'ai vraiment le sentiment, je le dis très tranquillement, que Macron a complètement disjoncté, mais vraiment disjoncté. C'est-à-dire que il est ingérable, et que malheureusement la Ve République lui permet aujourd'hui d'avoir les pleins pouvoirs. Pardon d'employer cette expression qui rappelle quelque chose, mais il a les pleins pouvoirs. Et je pense qu'il est parti dans une logique de terre brûlée. On va écouter ce qu'en pense tout à l'heure Karine Fischer.
Absolument.
Mais je pense qu'il est parti sur une politique de terre brûlée, et que après lui, le déluge, et je crains qu'il viole, bafoue une fois de plus la décision populaire, à savoir de dire qu'il faut changer de politique, et que juste pour emmerder le peuple, une fois de plus, le président des riches va peut-être faire quelque chose du type nommer par exemple Bayrou à Matignon, juste pour nous emmerder. Et ça, je crains, parce que derrière, je ne sais pas quelle sera la conséquence, et donc wait and see. Mais voilà, je croise les doigts, mais je crains qu'il nous fasse encore un dernier coup, parce que je vous rappelle qu'il n'est pas rééligible, hein, il a fait deux mandats. Je pensais potentiellement. Je pensais qu'il aurait pu démissionner de façon à ce que, en surinterprétant la Constitution de la Ve République, il aurait peut-être pu, en démissionnant, se représenter en 2027 comme le sauveur suprême. C'est pas le cas pour l'instant. Donc voilà, qu'est-ce qui va se passer ? Franchement, je crains le pire.
En tout cas, cette solution d'un autre Premier ministre que venant du Nouveau Front Populaire, les turiféraires d'Emmanuel Macron depuis hier à la télé passe et repasse, notamment Maud Bréjon, que je vais vous faire écouter maintenant. Maud Bréjon, tu en parles régulièrement dans ton émission L'œil de Moumou sur le média. Tu en as parlé ici. Dis-nous qui elle est.
C'est une porte-parole avec deux tensions qui a, je ne sais pas, je ne veux pas être méchant, mais voilà, qu'a le charisme d'une bonnette de micro de CNews. C'est-à-dire qu'elle est complètement, elle débite de manière mécanique des éléments de langage de la Macronie. Elle a aucune conviction et elle a notamment appelé au nini. Oui. D'ailleurs, ni les extrêmes, quoi, ni le FN, ni LFI. Et donc, d'une irresponsabilité totale et qui a été réélue confortablement, puisqu'elle est dans un endroit complètement tranquille, hein, oui. Qui vote pour la Macronie de manière facile. Donc, elle prend pas de risque. Et elle a, vraiment, je vous invite à aller voir Maude Bregeon, Bregeon. Je vous invite à aller voir sur les réseaux sociaux une vidéo, une simple vidéo d'elle. Mmh. Vous allez voir, c'est tragicomique tellement c'est une apparatchik en fait, une apparatchik d'un centre mou. Et donc, bah écoute, on va écouter, ouais, avec plaisir.
Elle était invitée hier sur BFM et la question c'était, que feriez-vous s'il y avait un gouvernement? Si Emmanuel Macron appelait à Matignon un député du Nouveau Front de Gauche, écoutez sa réponse.
Il y a ce qui se passe à l'Assemblée nationale, et on travaille de toute façon continuellement sur les différents projets de loi qui sont proposés, c'est pas le sujet. À titre personnel, et je le dis très clairement, je ne participerai pas à une coalition qui intégrerait la France Insoumise ou Europe Écologie Les Verts, parce que... Voilà, très humblement, c'est contraire à mes convictions. Je suis pour le nucléaire, ils sont contre le nucléaire. Je suis pour la police, ils sont contre la police. Je caricature un peu, mais vous voyez ce que je veux dire. Je ne participerai pas à une coalition avec des gens qui ont cautionné l'envoi de cocktails Molotov sur les forces de l'ordre à Sainte-Soline. J'ai pas fait de la politique pour ça. Encore une fois, je ne partage pas ses convictions, mes convictions avec eux. Je partage des choses avec une partie des Républicains. Je discute sans problème avec une partie des socialistes. Mais il y a aujourd'hui des lignes rouges que j'ai, pour ma part, déjà exprimées il y a une semaine, lundi dernier, en disant pas une voix pour le RN, pas une voix pour LFI. Je ne vais pas me dédire ce matin. Et encore une fois, ça n'engage que moi. Le président de la République est évidemment libre de ses choix. Et l'Assemblée nationale, de toute façon, s'organisera. Et on est voilà 577 députés. Mais moi, je reste droit dans mes bottes. Je ne participerai pas à une coalition avec cette gauche-là.
Ni Mélenchon, ni Tourdelier.
Je n'ai pas été...
Vous ne voterez jamais de texte qui vient du Nouveau Populaire, ça veut dire, ou pas?
Oui.
C'est une question, hein, parce que participer à une coalition, c'est très clair. Voter des textes au cas par cas, comme vous l'aviez proposé quand vous étiez aux affaires, est-ce que vous accepterez, sur certains textes qui vous plaisent, de les voter, même s'ils émanent du Nouveau Populaire?
On a toujours fait comme ça.
D'accord.
La question, c'est celle de la coalition et celle du projet de fond. Je n'ai pas suffisamment de plus petits dénominateurs communs avec cette gauche-là pour... aller dans une coalition. Encore une fois, je n'ai pas été élue pour ça. Ça ne correspond pas à mes valeurs, ça ne correspond pas à mes convictions. Peut-être que d'autres députés Renaissance élus hier soir seront d'accord pour le faire. Et je les respecte. Je respecterai ce choix. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour les élus de gauche. C'est pas le problème. Mais voilà, ça ne correspond pas à ce que moi je porte.
Yael Braun-Pivet, elle, est ancienne présidente du Parlement, de l'Assemblée nationale. Elle est invitée ce matin sur France Inter et elle voit déjà comment va se passer un gouvernement de gauche. Écoutez-la.
Lorsque j'entends certains de ces dirigeants dire qu'ils vont gouverner à coup de 49-3 ou à coup de décret, je suis extrêmement inquiète de cette vision de la démocratie à géométrie variable selon qu'on est dans l'opposition ou qu'on se prétend être dans une certaine majorité.
C'est le
majorité.
Gouvernement que vous souteniez qui a fait adopter la réforme des retraites au 49-3.
Non, mais je crois qu'aujourd'hui, il faut respecter le Parlement. Si on veut que le Parlement soit renforcé, il faut que le Parlement puisse s'exprimer. Et donc, il faut y trouver une majorité. Le Premier ministre doit être issu de cette majorité. Vous savez, moi, je vais même plus loin. Si nous arrivons et nous devons parvenir à composer un gouvernement, moi, je suis extrêmement favorable à ce que ce gouvernement demande un vote de confiance à l'Assemblée nationale. Lorsque j'entends certains dirigeants...
Énorme. Yael Braun-Pivet, c'était ce matin, Mourad, sur France Inter.
Oui, elle a zappé, elle a juste zappé un détail, c'est-à-dire que comment Attal, lui, n'a pas demandé la confiance hein, quand il a été, quand il a été investi.
C'est absolument ça qu'il faut voir. Ouais.
D'une part. D'autre part, Maude Bregeon, j'ai envie de dire vraiment, mais très sincèrement, pour qui se prend-elle? Je veux dire, moi, je veux bien m'allier avec, avec Kermit la Grenouille ou René Lataupe, mais pas avec elle. Elle est personne, elle est rien. C'est la porte-parole d'un groupe en déchéance totale qui a perdu les élections. Elle a perdu les élections. Donc de savoir si elle souhaite ou non s'allier avec la gauche, j'en ai rien à cirer. Très honnêtement, rien à cirer. Elle a perdu. Et elle fait, l'expression oblige, elle fait partie du problème. C'est-à-dire qu'ils ont conduit le pays dans cette situation. Et je prenais l'exemple récemment, pardon de faire une analogie, mais je prenais l'exemple de la secrétaire générale du SCO Populaire. SCO Populaire pour qui j'ai le plus profond respect, vraiment, par rapport au travail qu'ils font, notamment sur l'accès à la culture et l'accès au loisirs et aux vacances. Mmh. Et ils organisent, comme tous les ans, ils organisent ce qu'on appelle la journée à la mer. Donc la journée à la mer, c'est quoi ? J'y ai participé en tant que bénévole. Et j'ai vu les yeux d'un enfant d'une dizaine d'années qui voyait, à travers la vitre du bus, qui voyait pour la première fois de sa vie, à 10 ans, pour la première fois de sa vie, la mer. Et quand vous avez vécu ça... je peux vous dire que vous l'oubliez pas. J'ai 54 ans, c'était, je pense, il y a une grosse quarantaine d'années. Mmh. Je l'ai toujours, ce regard de ce gamin qui découvre la mer pour la première fois, qui va passer une journée à la mer, qui constituera l'ensemble de ses vacances. Et là, la secrétaire générale du Secours Populaire explique que pour la première fois, elle voit des parents qui travaillent tous les deux, oui. Tous les deux, mmh. Et qui ont besoin, qui ont recours au Secours Populaire pour participer et que leurs enfants puissent aller une journée à la mer. Voilà ce que la Macronie a laissé comme bilan. C'est-à-dire que des parents qui bossent, qui touchent un salaire, n'ont pas suffisamment les moyens, de par leur précarité, n'ont pas suffisamment les moyens pour offrir, bordel de merde, ouais. Pour offrir à leurs enfants des vacances, quoi. Putain, clairement. Même pas une semaine. Clairement. C'est une journée. Mmh. Une journée à la mer. Mmh. Qui vont devoir aller quémander auprès du Secours Populaire. Je veux dire, ça me rend furieux, parce que c'est indigne, c'est totalement indigne. Je rappelle que la Macronie, la première des décisions de la Macronie, c'était de supprimer l'ISF. Ok, ça ne rapporte pas des 100 et des 1000, on est d'accord. Mais la symbolique est très forte. Je veux dire, la chasse à l'évasion fiscale, zéro. La chasse aux pauvres, aux chômeurs, 100%. La dernière saloperie, je suis vraiment en colère là-dessus. Vas-y. La dernière saloperie d'Attal, cette espèce de petit roquet inconséquent qui va dégager avec son clébard et ses baskets, c'est la dernière chose qu'il a faite, c'est quand même la chasse aux chômeurs, nom de Dieu. Je veux dire, c'est pas possible. Bruno Le Maire, ministre de l'économie qui nous a foutu dans une palette pas possible, son dernier discours de pauvre type raté, aux chaussures pointues d'agent immobilier raté, ça a été de dire ni. De dire qu'il ne prendrait pas position contre le RN. Quand on prend pas position contre le RN, ça veut dire qu'on est pour le RN. Donc ces gens-là, ils dégagent. Ils dégagent. C'est un fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Avec quels moyens ? Il sera hyper intéressant, effectivement, d'avoir par exemple Emmanuel Duplessis. Donc, je le rappelle, qui a été élu sur la, donc qui est Génération. Le courant de Benoît Hamon, qui a été élu sur l'ancienne circonscription de l'ultra-droitard Serge Grouard, donc a été battu lui-même par la modérée Renaissance Caroline Janvier, et qui, malheureusement, Caroline Janvier a été victime d'un complot. Je le dis très tranquillement, j'en ai parlé la semaine dernière, je vous invite à réécouter. Oui. Donc ça a marché, malheureusement, et donc elle a été battue et elle s'est désistée alors qu'elle aurait pu rester au second tour, donc bravo à elle. Et voilà, c'est maintenant passé à Génération. Ce sera intéressant de voir avec Emmanuel Duplessis comment ça va pouvoir se goupiller tout ça pour arriver à quelque chose de cohérent en termes de vote de la loi d'abrogation, notamment de la loi retraite, l'ancienne loi travail. Enfin voilà, voir comment tout ça va pouvoir se goupiller, sachant qu'il n'y a pas de majorité, comme je l'ai dit tout à l'heure, et que ça va être assez compliqué.
Emmanuel Duplessis, nous l'aurons dans cette émission à la rentrée, il me l'a promis, mais on en parle dans quelques minutes avec Karine Fischer, que j'ai interviewée en début d'après-midi. On parlera avec elle également du programme du nouveau Front Populaire, et on parlera également de pourquoi pas imposer une 6e République. C'est dans le programme en tout cas, c'était dans le programme de Jean-Luc Mélenchon et le LFI défend toujours ce projet-là. On écoute un peu de musique avec Arc de Soleil, c'est un projet d'un guitariste suédois, ça s'appelle Thief in Marrakech. Fabuleux. Notre invitée dans un bâton rompu ce mardi est Karine Fischer, conseillère régionale La France Insoumise, pour parler des résultats des élections législatives anticipées voulues par le président Emmanuel Macron. Bonsoir Karine Fischer.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation sur Radio Campus. Ces législatives dont les sondeurs n'avaient pas exactement prévu les résultats que l'on connaît. Le Nouveau Front Populaire, coalition de principaux partis politiques français de gauche, je le rappelle, qui arrive en tête. C'était pas prévu. Comment avez-vous accueilli les résultats dimanche soir ?
Alors d'abord avec un grand, grand soulagement, parce que je pense que beaucoup, beaucoup de gens en France étaient soulagés, même à titre personnel, parce qu'un certain nombre d'entre eux et d'entre elles pouvaient se sentir menacés légitimement par l'ambiance délétère qui se développait depuis la montée de l'extrême droite. Donc c'était d'abord un soulagement et ensuite une joie quand même aussi de retrouver une majorité relative au Nouveau Front Populaire. Effectivement, on nous dit que personne n'attendait. Il se trouve surtout que les 27 sondages qui ont été commandés se sont tous trompé dans les grandes largeurs et que donc, parce qu'en fait on devrait se être humble devant le système électoral qui est complexe et peut-être parfois éviter de faire des plans sur la comète avant de voter en son âme et conscience plutôt que de regarder les sondages.
Et politiquement, vous vous êtes pas dit le Nouveau Front Populaire qu'on a mis en place, c'est ça qu'il faut faire contre le Rassemblement National qui inexorablement monte. Voilà, un rassemblement de partis de gauche réellement.
C'était le pari d'Emmanuel Macron, c'était que la gauche n'arrive pas à se mettre d'accord. Et donc c'était de voir arriver le RN au pouvoir. Hein. C'était ce pari irresponsable qu'il faisait en dissolvant de cette manière l'Assemblée nationale. On lui a montré, on a surtout montré aux Français et aux Françaises que devant l'urgence, la gauche, les écologistes étaient capables de se mettre d'accord. En plus, c'était pas nouveau. On avait déjà 2 ans plus tôt réussi à construire un programme, des accords électoraux sur ce programme, et on a fait la même chose en encore moins de temps. Cette fois-ci.
Et localement également, la gauche qui s'en sort plutôt pas mal, l'élection d'Emmanuel Duplessis sur la deuxième circonscription. Je crois que vous avez fait campagne avec lui entre les deux tours.
J'ai fait campagne, il se trouve que c'est la circonscription où j'habite, donc j'ai fait aussi campagne au premier tour sur deux autres circonscriptions. J'ai essayé de réseauter et d'être le plus actif possible partout où je pouvais, mais c'est vrai que pour le deuxième tour, j'ai surtout essayé d'aider avec du tractage de porte-à-porte comme beaucoup de gens qui sont arrivés. Il y a eu un vrai engouement pour cette campagne en particulier, et aussi parce qu'on avait besoin d'avoir enfin au moins un député progressiste dans le Loiret. Donc on est effectivement ravis de son élection aujourd'hui.
Alors Emmanuel Duplessis, qui est du parti Génération, hein, affilié au PS, non, je sais plus
exactement. Ils sont dans le pôle écologiste et absolument. Ils sont dans le même groupe. Là, j'ai vu la belle photo de famille devant les marches de l'Assemblée nationale aujourd'hui, et Génération est effectivement avec le groupe des écologistes.
Et qu'avez-vous de commun avec lui, vous, LFI ?
On a beaucoup de choses en commun en réalité. On a été capable de se mettre d'accord sur ce programme. En fait, la France Insoumise, ce qui fait son ADN, c'est de répondre aux urgences sociales, écologiques et démocratiques. Donc voilà, on est des écologistes socialistes au sens plein du terme. Génération, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut se mettre d'accord et se retrouver.
À vrai dire, je l'ai eu au téléphone hier, Emmanuel Duplessis, qui partait à Paris, donc prendre possession de son bureau et rencontrer d'autres élus de gauche notamment, et il me disait que les transactions avaient commencé, on le sait, on l'apprend par les réseaux sociaux. Il faut un Premier ministre, le nouveau Front Populaire dit nous avons gagné, donc il nous faut un Premier ministre. Avez-vous des informations? Qu'est-ce qui se passe en ce moment précis?
Alors, ce qui se passe en ce moment, c'est des discussions qui vont durer plus d'une journée. Donc, il va falloir que tout le monde s'arme de patience, je pense, entre les différentes forces du nouveau Fonds populaire. Et c'est parfaitement normal. En fait, on retrouve un fonctionnement collectif. C'est la grande différence avec la Macronie, où tout était décidé par une seule personne. Et les gens ont fini par s'habituer à ce qu'une seule personne est toujours décide de tout. Aujourd'hui, que ce qu'on ait un premier ministre ou une première ministre, ce sera quelqu'un qui travaillera avec les autres. J'ai pas d'inquiétude, je pense qu'on va y arriver. J'ai un petit espoir pour une première ministre, je
d'accord.
vous avoue.
Laquelle? Vous pouvez le dire, je pense.
Alors, mon choix personnel, ce serait Clémence Guettet. Voilà. Je trouve qu'elle est.
Elle est en train de monter dans les préférences des ouais. Et c'est vrai qu'on l'a vu répondre de façon très pertinente lors de la soirée électorale, notamment. Donc,
oui. Oui, elle est d'abord c'est quelqu'un de très solide effectivement, et elle a une de ses forces, c'est que c'est elle la coordinatrice du programme avec Adrien Clouet, en tout cas pour la France Insoumise. C'est elle qui a été dans les négociations pour le programme du nouveau Front Populaire, et donc elle a aussi chevillé au corps le respect de ce programme, de ses engagements qu'on a pris devant les électeurs.
Le programme du nouveau Front Populaire, parlons-en maintenant. Ce programme, quand vous l'avez annoncé, vous avez dit il sera progressif, dans 3 semaines on fera ci, dans 1 mois on fera là. Est-ce que la première chose, je crois que c'est le SMIC à 1 600 € brut, hein.
Il y a le SMIC. Oui, je crois que c'est là. C'est parce que c'est relativement simple à faire. Le gouvernement peut le faire en signant un décret. C'est la même chose dans une certaine mesure pour l'abrogation de la réforme des retraites. En tout cas, pour la première tranche, hein, par exemple, les gens qui seraient obligés de continuer là et qui auraient 62 ans, on peut faire en sorte que s'ils le souhaitent, ils partent maintenant. Donc voilà, c'est des mesures fortes qu'on peut prendre rapidement.
Et quand vous faisiez campagne, les gens, ils accueillaient ça comment? Le SMIC, la retraite, le barème d'impôts, notamment sur les 14 tranches, le blocage des prix?
La grosse difficulté qu'on a eue depuis le début, c'est que les gens ont été tellement déçus, les gens ont été tellement trompés, qu'en fait, ils ont du mal à croire que ce soit possible. Ah. Et quand on les rencontre dans les porte-à-porte, c'est ça la grande difficulté. C'est pas nécessairement la résignation, mais c'est le fait de dire, ok, vous me dites ça maintenant, mais on m'a toujours dit, tout le monde a toujours dit que c'était pas faisable. Il y a eu aussi un bulldozer, voilà, que j'appelle politico-médiatique, qui nous explique que ce n'est pas faisable. C'est en fait ce qu'on nous disait déjà en 36, quand on a légiféré sur les congés payés. C'est ce qu'on nous disait comme pour la journée de 8 heures. Donc voilà, c'est ce qu'on nous disait comme pour la retraite à 60 ans en 81. Notre grand défi, ça a été de dire si c'est possible, on peut le faire et on le fera si on arrive au pouvoir. C'est aussi ça, c'est d'où l'importance aussi, si on, avec un gouvernement nouveau populaire, de mettre en place ces mesures-là pour montrer aux gens, pour la suite, qu'on respecte nos promesses.
Un des enseignements de cette campagne express, c'est aussi que, de l'autre côté, hein, j'ai vu des reportages avec des gens qui votaient pour le Rassemblement National, avaient ces préoccupations-là également, hein, sur le niveau de vie, voilà, et la retraite. Est-ce que vous pensez pouvoir les raccrocher au wagon d'un Front populaire de gauche ?
Historiquement, l'extrême droite monte quand on est en crise sociale. Donc il y a effectivement un enjeu social et politique à faire en sorte que les gens vivent mieux, parce qu'un certain nombre d'entre eux se rendront compte que peut-être que ces sirènes du Front National ne sont pas aussi belles qu'ils le pensaient. D'autant plus qu'un certain nombre d'entre eux, quand même, moi j'ai réussi en porte-à-porte à discuter avec des gens qui avaient voté RN, et quand je leur disais, mais regardez, l'abrogation de la réforme des retraites, là, en une semaine, ils ont changé d'avis. La baisse de la TVA, ils ont laissé tomber. Et ils se rendaient compte qu'ils avaient vu ça aussi à la télé, en fait. Hein, et ils se rendaient compte que je disais la vérité. Donc, voilà, on peut quand même, je pense, convaincre un certain nombre de gens que ce n'est pas une bonne idée, que ce n'est pas une solution, que c'est une arnaque sociale. Après, il y aura toujours des gens... voilà, il y a malheureusement un fond minoritaire raciste dans ce pays. Mais la plupart des gens, je pense, dans notre France, en 2024, sont capables de se rendre compte quand les gens, choses vont mieux, que ce n'est pas que rien n'est de la faute des immigrés en réalité, et que leurs problématiques, elles sont essentiellement sociales.
Revenons au résultat, et là cette fois-ci en région, vous êtes conseillère régionale, la gauche gagne je crois trois sièges.
Quatre.
Quatre, hein,
sur... quatre sièges, on a quatre sièges, un PS à Tours, un PS en région Tourangelle, un écologiste, PCF à Bourges, Vierzon, bien évidemment Emmanuel Duplessis dans le Loiret. Donc on double notre score, on aimerait être encore plus haut sur la région, mais on double quand même notre nombre de députés.
Voilà, sous la bannière de la coalition, hein, des partis de gauche, je vous disais, nouveau Front populaire. C'est ce Front populaire, j'allais dire, cette coalition des forces de gauche, elle marche à la région, avec le président François Bonneau, vous-même élu, il y a tous les partis.
C'est vrai qu'on est la seule région hexagonale, en tout cas, parce que c'est un peu différent dans l'outre-mer. On est la seule région dans laquelle on a déjà une majorité qui, en tout cas dans sa géométrie, correspond à la géométrie du nouveau Front populaire. Le nouveau Front populaire, c'est vraiment un programme.
Oui, bien sûr.
Donc ce programme de rupture, je pense qu'il est plus marqué encore au niveau national aujourd'hui.
Et ça se passe bien, toujours bien, entre vous et la région ou pas ?
Ça se passe bien, on a une majorité qui fonctionne, on n'est pas d'accord sur tout. Il nous arrive avec notre groupe, je suis dans un groupe, donc je suis la France Insoumise, mais je suis dans un groupe avec des écologistes, on est 11. Il nous arrive de voter contre certaines choses, par exemple en lien avec l'enseignement supérieur à la recherche, ou certaines écoles privées. Voilà, il y a des sujets aussi d'écologie sur lesquels on n'est pas toujours d'accord. Mais sur l'essentiel, on arrive à se mettre d'accord.
Karine Fischer, je lui ai posé d'autres questions, hein, notamment sur... Elle est enseignante ici à l'université. J'ai posé des questions sur l'université, la campagne pour la présidence de l'université. On aura peut-être le temps de le passer, mais je voulais d'abord, Mourad, que tu réagisses sur la première partie de cette interview de Karine Fischer.
Oui, alors c'est complexe parce que ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est qu'on est dans un truc, dans une phase paradoxale. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose qui est réjouissant, enfin, pour les gens engagés à gauche, d'une part, mais qui est donc paradoxalement qui fait qu'on va vers l'inconnu. Et là, j'avoue que je ne sais pas quelles seront les capacités de la gauche à pouvoir changer la donne, en fait. Et c'est ça qui me pose question. Effectivement, elle a raison. Il y a des résultats. Je parle de la deuxième partie de son intervention, mais il y a des résultats qui sont... satisfaisants par rapport à ce qui a été prédit par les éditocrates notamment et par les instituts de sondage, mais ça va être extrêmement compliqué. On rentre dans quelque chose qu'on ne connaissait pas en France, c'est-à-dire trois blocs, le centre droit, évidemment, le RN et la gauche. Mmh. Et donc, on rentre dans quelque chose qui ressemble plus à un système parlementaire italien, pour prendre cet exemple, ou allemand, qu'on n'a jamais connu en France. Donc ça, je suis un tout petit peu dubitatif sur la suite des événements. Sur son analyse de départ, oui, je suis entièrement d'accord avec elle. Je pense qu'elle est clairvoyante sur ce qu'il va falloir aborder rapidement, ce qu'il va falloir abroger rapidement. Mais la gauche a-t-elle les moyens de le faire ? J'en suis pas certain du tout.
Seul, tu veux dire ?
Oui, seul. Avec qui la gauche aujourd'hui peut se s'allier ? Enfin, je vois pas. Vraiment, je veux pas faire le rabat-joie, mais c'est un petit peu compliqué.
Il n'est pas exclu que des députés du bloc présidentiel, comme on dit, puissent dire que on a merdé et retourne voter avec le nouveau Front populaire sur des choses essentielles. Peut-être pas sur la retraite, parce que ils sont un peu trop engagés, mais sur d'autres choses.
C'est une bonne question. C'est-à-dire que est-ce que suite à cette gifle qu'ils se sont pris, à savoir la dissolution sans la moindre concertation, ils l'ont appris en même temps que nous, à la télévision, le 30 juin au soir.
Non, mais c'est moi, j'appuie sur des boutons, je sais pas pourquoi.
Il n'y a pas de souci. c'est des gifs radiophoniques.
C'est ça.
Voilà, ils l'ont appris comme nous le 30 juin au soir. Donc, est-ce qu'ils vont accuser le coup au point de se dire nous sommes parlementaires, nous faisons la loi et donc on se détache complètement du pouvoir macroniste moribond ? Ou alors, est-ce qu'ils vont continuer à avoir une espèce de ce qu'on appelle les Playmobil, avoir une espèce de fidélité aveugle vis-à-vis de Macron ? Ça va être la grande surprise. Comme je le dis souvent, j'ai appris très tôt à mes enfants à dire « je ne sais pas », plutôt que d'affirmer des choses complètement ridicules. Donc là, je le dis très tranquillement, je ne sais pas.
Bon. Et un nom pour Matignon, pour toi, tu as parlé de Bayrou tout à l'heure, mais si Emmanuel Macron acceptait l'hypothèque gauche, qui tu verrais ? Karine Fischer parle de Clémence Guettet.
Pourquoi pas Clémence Guettet, que je connais un peu, est très tranchante. Hein. Elle ne se laisse absolument pas faire. Elle fait partie des gens qui, notamment sur les plateaux télé, réagissent avec vigueur aux attaques, notamment d'antisémitisme, voilà, et d'autres choses. Elle est un peu dans le giron de Mathilde Panot, par exemple, ou de Manon Aubry. Peut-être qu'il va trouver en Marine Tondelier quelqu'un d'un peu plus posé, consensuel, même si elle a des grenades dégoupillées dans les poches. Mais peut-être que ça peut être l'une des solutions. Ça peut être Olivier Faure. Mais comme je le disais, ça peut être aussi un piège qui serait soit de nommer François Bayrou, par exemple, soit de nommer Olivier Faure de façon à tenter de diviser le bloc de gauche. Yep. Dans tous les cas, je le dis vraiment très humblement, honnêtement, j'ai pas de boule de cristal, donc je ne sais pas. Mais malheureusement, je le redis, Macron... est un petit peu bunkérisé. Hein. Je repense au film La Chute sur Hitler dans son bunker. Il est bunkérisé et donc il est capable de tout et de n'importe quoi. Oui. Et surtout de n'importe quoi. Donc je crains le pire, hein, très franchement, pour notre pays. Et j'ai pas de vision parce que et je le redis, il a tous les pouvoirs et donc il va pouvoir faire ce qu'il veut, quitte à s'aborder une nouvelle fois, puisque là on est déjà dans ce cadre-là, avec la dissolution, quitte à s'aborder le pays et à flinguer littéralement, l'avenir politique du pays.
À suivre dans les prochains jours, on en parle certainement mardi prochain pour la dernière émission de la saison. La deuxième partie de l'interview de Karine Fischer. Alors attendez de parler de cette 6e République. Voilà, c'est sur la 6e République. Écoutez, lors de la dernière élection présidentielle. D'ailleurs, expliquez aux jeunes, on a besoin de pédagogie ici sur Radio Campus, c'est quoi cette 6e République ?
Alors, l'idée, c'est, de base, c'est la 5e République aujourd'hui ne fonctionne pas, ne fonctionne plus. Il y a une présidentialisation qui était déjà dans les possibilités de la Constitution, parce qu'elle avait été quand même pensée et construite par Charles de Gaulle. Ce rapport individuel au pouvoir n'est pas suffisamment démocratique. Et donc, nous avons besoin de remettre les choses à plat. En plus, elle date de 58, c'est quand même petit peu lointain.
Ans, là, oui.
Voilà. Il est temps de remettre les choses à plat. Et donc, notre proposition, c'est à terme d'avoir une assemblée constituante. Et de faire cette constitution avec le maximum de gens possible. Une assemblée constituante qui serait constituée de gens qui ne sont pas déjà élus. Et donc une réflexion sur le fond, sur ce qu'on pourrait améliorer, notamment la question de la présidence de la République. Il y a très très peu de pays en réalité où un président a autant de pouvoir. En Irlande par exemple, puisque j'enseigne là-dessus, le président irlandais n'a pas de pouvoir. Il a un rôle symbolique important, mais il n'a pas de pouvoir du tout. Et c'est un régime parlementaire beaucoup plus fort, que moi j'appelle aussi de mes voeux, dans lequel le collectif joue énormément et dans lequel il y a des compromis qui se font. C'est beaucoup, un système beaucoup plus proportionnel, ce qui fait partie aussi de nos engagements, pour arriver à des... Alors, c'est pas parfait, mais c'est aussi pour ça qu'il faut trouver la bonne proportion, le bon système, parce qu'il n'y a pas de système parfait. Mais en tout cas, le gouvernement est beaucoup plus nettement issu de la représentation du peuple. Absolument. Et c'est ce qu'on devrait avoir.
Et cette constituante, ce sont des personnes, quoi, désignées ou...
Alors c'est pas tout à fait ça, ça fait partie des discussions qu'il faudrait avoir. En fait, on a un livret là-dessus.
Oui,
une des possibilités, c'est d'avoir une partie élue, mais donc que des candidats qui n'auraient pas déjà été élus à quelque chose avant. En tout cas pas élus nationaux par exemple avant, et éventuellement une partie tirée au sort.
Yeah.
Par exemple.
Cette idée, pour avoir fait un sondage ici parmi les jeunes de la rédaction de Radio Campus, elle fait son chemin parce que les jeunes ne se retrouvent plus du tout dans la 5e République, et surtout cette décision, et puis ils ont vu la façon dont Emmanuel Macron avait de décider pratiquement seul. On peut l'espérer. comment voyez-vous les choses?
Elle est. Le président peut décider d'un référendum. Si c'était. Alors là, Macron, on compte pas trop sur lui, mais en théorie, en tout cas, un président peut décider par référendum de proposer aux Français de faire une assemblée constituante. Si la majorité dit oui, elle peut être mise en place. Sans un président qui le décide, c'est un peu plus compliqué, mais une assemblée peut aussi proposer un référendum. En réalité, c'est d'ailleurs dans le programme du Nouveau Front Populaire, dit vers une 6e République, abolir la monarchie présidentielle, instaurer une proportionnelle, revitaliser le Parlement, abroger le 49-3, et aller vers une 6e République par cette convocation de l'Assemblée constituante citoyenne élue. Donc on est dans cette dynamique-là. C'est vrai qu'on en a pas relativement peu parlé pendant les élections, mais ça fait partie du programme. Donc je pense qu'on voit de manière très très large que c'est un vrai sujet et que de plus en plus de gens sont persuadés maintenant que c'est nécessaire.
C'est nécessaire, absolument. Enfin, en tout cas ici, je l'entends beaucoup. Mais il va peut-être être obligé, Emmanuel Macron, parce que maintenant, vu la configuration de la nouvelle Assemblée, il y a trois blocs. Je vous rappelle, il y a le RN, il y a évidemment le Nouveau Front Populaire, et puis il y a le Bloc Ensemble. Il va être obligé d'écouter plus l'Assemblée, non, vous ne croyez pas ?
Moi, j'attends de rien de lui, en fait. On est même inquiet qu'il ne respecte pas la base des institutions, puisque là, il n'aurait pas dû demander à Gabriel Attal de rester. ça n'est pas réellement au président de choisir le, on, il nomme le Premier ministre, mais c'est pas le président qui le choisit. Le Premier ministre doit être issu d'une majorité, même relative, à l'Assemblée nationale. Donc voilà, il respecte pas les institutions. Donc voilà, j'ai du mal à attendre quoi que ce soit de lui.
Bon, pour terminer cette interview, Karine Fischer, on va parler de, vous le disiez, à l'enseignement supérieur. Vous êtes enseignante ici à l'Université d'Orléans. Vous êtes élue au conseil d'administration de l'université. Vous avez même participé, je pense, à l'écriture de la réflexion, en tout cas, autour du programme LFI pour l'enseignement supérieur. Elle va pas très très bien. C'est...
L'université aujourd'hui ?
Oui.
Non, l'université, elle est victime de dizaines d'années maintenant d'austérité. Elle est victime aussi des formes de marchandisation, de mise en concurrence des universités. Donc il y a beaucoup beaucoup à faire. Je co-anime le groupe qui a construit le programme, effectivement, de la France Insoumise pour l'enseignement supérieur et la recherche. Ce qui est d'autant plus terrible sur ce domaine-là, c'est qu'en fait, on sait quoi faire. On aurait l'argent. Il suffirait de prendre une bonne partie de l'argent du crédit impôt recherche. Ça représente 7 milliards. C'est donné aujourd'hui essentiellement à des grandes entreprises qui n'en ont pas besoin. Donc voilà, typiquement, on sait comment le financer et on sait quoi faire. Et on pourrait avoir des universités dignes de ce nom qui accueillent l'ensemble des néo-bacheliers et bachelières qui le souhaitent, comme c'était le cas jusqu'à présent, il faut le rappeler. Jusqu'à Parcoursup. Et à l'intérieur